Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CSA La France, l'émission hebdomadaire qui met en lumière chaque semaine cette France qui bouge, qui innove, qui crée et surtout qui fait le pari du fabriqué en France, de la transmission de savoir-faire. Et c'est le cas de nos artisans. Vendredi dernier a été lancée en Loire-Atlantique une nouvelle campagne nationale. Ici, je forme un apprenti, une campagne très importante pour les artisans, aux objectifs multiples. On va en parler dans quelques instants. Tout à l'heure, je vous emmènerai découvrir un chocolatier qui rayonne à travers la France et hors de nos frontières. Mais tout de suite, nous sommes ravis de recevoir Joël Fourny, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Joël Fourny.
Bonjour.
Alors justement, vendredi dernier, vous avez lancé cette campagne nationale. Ici, je forme un apprenti. Alors pour bien comprendre l'importance de l'apprentissage, de l'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat, en 2019, la France comptait 491 000 apprentis, soit une hausse de 16% par rapport à 2018. Le réseau des CMA forme environ 100 000 jeunes sur 250 métiers chaque année.
Oui, exactement, 100 000 jeunes, même voire un peu plus de 100 000 jeunes cette année. Donc c'est une grande satisfaction parce qu'on était loin de penser qu'on allait avoir des chiffres supérieurs à l'année 2019. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Dans les 112 CFA. Alors quel est l'objectif de cette campagne ? Ici, je forme un apprenti.
Alors déjà, c'est de mettre un logo en place. Et donc on a proposé de mettre une vitrophanie sur les vitrines des commerçants et des artisans qui forment sur l'apprentissage pour montrer leur engagement dans ce domaine. C'est des gens qui sont quelquefois méconnus ou en tout cas le grand public n'arrive pas à identifier les artisans et les entreprises artisanales qui s'engagent sur la formation. Donc on a voulu montrer et mettre en avant ces artisans qui sont engagés très fortement en direction de la formation des jeunes. On ne veut pas que ce soit la génération du Covid, mais on veut que ce soit la génération de l'artisanat. Et donc du coup, on veut continuer à transmettre les vraies valeurs de l'artisanat. La formation est importante pour transmettre les savoir-faire et notamment mettre aussi en lumière des artisans, des artisans qui pourraient être aussi des ambassadeurs pour valoriser la formation par apprentissage.
Donc changer l'image de l'apprentissage, parce qu'il y a des clichés qui collent à la peau. Hein. Et donc là, dans l'apprentissage, c'est assez paradoxal parce que finalement, l'apprentissage est reconnu par tous pour son efficacité, elle est reconnue, c'est indéniable. Et en même temps, il y a toujours ce besoin de changer l'image de l'apprentissage.
Oui, il faut changer l'image et l'image doit être, je dirais, positive. On a trop souvent, et le grand public en particulier, a trop souvent une image assez négative des métiers de l'artisanat, alors même que c'est des métiers qui ont évolué. Quand on parle aujourd'hui d'enjeux sur la numérisation, sur la digitalisation, c'est des éléments sur lesquels on a pris conscience et les chefs d'entreprise artisanale, les artisans eux-mêmes ont pris conscience qu'il y avait des choses à faire et ils sont très engagés là-dessus. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la période du Covid, comment et à quel point les entreprises qui avaient énormément travaillé sur ce volet-là sont très en avance et à même de pouvoir répondre aux besoins du consommateur.
Donc vous voulez dire que c'est aussi l'occasion de faire découvrir donc la palette des métiers qui existent dans les secteurs de l'artisanat, ce sont des secteurs qui sont à la pointe, qui savent justement s'adapter, innover, et voilà. Qu'on quitte cette image un peu désuète de l'artisan qui serait vraiment dans un autre temps.
Voilà, c'est des entreprises qui innovent, qui investissent sur l'avenir et qui donc du coup sont capables de se projeter aussi sur du long terme et donc du coup ont besoin de s'engager et d'engager des jeunes dans leur aventure. Et donc du coup, c'est mettre en lumière tous les savoir-faire, toutes les activités artisanales, quelquefois aussi des activités qui sont peut-être pas suffisamment connues du grand public. En tout cas, c'est de porter un intérêt particulier sur ces métiers de l'artisanat. C'est un vrai sens parce qu'en fait aujourd'hui on sait que c'est un secteur qui emploie beaucoup, qui a une forte capacité. Voilà, première entreprise de France et on a plaisir à le dire, et c'est une entreprise qui embauche et qui maintient l'emploi aujourd'hui même dans une période compliquée de crise. Et on sait que dans les années qui vont venir et notamment dans le cadre de la reprise et du plan de relance, les entreprises artisanales vont avoir besoin de créer de l'emploi, vont avoir besoin de compétences nouvelles et donc du coup c'est pour ça qu'elles sont fortement engagées dans ce domaine. Je pense que c'est aussi une manière de montrer aux jeunes qu'il y a moyen de réussir sur ces métiers, d'avoir une superbe carrière professionnelle. Et quand on sait qu'il y a 80 à 85% des jeunes qui sont formés sur les secteurs des métiers de l'artisanat, qui ont un emploi à la clé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement encourageant.
Comment cette campagne est-elle accueillie par les chefs d'entreprise ?
Alors j'espère qu'elle le sera, je dirais, assez fortement et notamment bien appréciée et relayée. Mais je pense pouvoir leur faire confiance parce que c'est des entreprises qui sont très très à même de pouvoir porter haut les couleurs de la formation par apprentissage. C'est des gens qui sont très souvent issus de l'apprentissage. Donc du coup, je pense qu'ils seront ravis de pouvoir mettre sur leur vitrine un logo qui permettra de pouvoir dire très clairement, ici on forme un apprenti, et j'irais de pouvoir montrer aux consommateurs, à leurs clients, qu'ils sont capables aussi de s'engager sur la formation. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose qu'ils vont fortement apprécier, et je pense que ce sera relayé, bien sûr, sur l'ensemble du territoire.
Et vous êtes vous-même dirigeant d'entreprise, hein, l'entreprise CIM, donc une société industrielle de modelage mécanique. Donc vous avez des apprentis également ?
Non, je n'ai pas d'apprentis, mais par contre, je pense que je communiquerai énormément sur le fait de garantir aussi aux entreprises du secteur de sous-traitance industrielle qui a beaucoup à faire sur ce domaine. Dans le domaine du modelage, il n'y a pas de formation par apprentissage, il n'y a pas de formation par alternance. Mais en tout cas, je sais que dans d'autres secteurs, et notamment la mécanique générale, tout ce qui est chaudronnerie, etc., beaucoup d'entreprises dans ce secteur forment aussi beaucoup d'apprentis. Et je pense qu'ils seront aussi ravis de mettre des macarons un peu partout pour montrer qu'ils sont aussi engagés.
Qu'est-ce qui pourrait freiner justement certains entrepreneurs à prendre le temps justement aussi, parce qu'effectivement ça demande du temps de former des apprentis. Il y a eu une aide exceptionnelle du gouvernement, entre de 5 000 à 8 000 euros pour justement booster cette situation de l'alternance. C'est quoi c'est le coût de la formation d'un apprenti?
Alors aujourd'hui, je dirais que la difficulté pour les entreprises, c'est peut-être le manque de visibilité. Pour un certain nombre d'entreprises, on sait qu'on a à peu près 20 000 entreprises qui sont à la recherche d'un apprenti. Quelquefois, ils ont du mal à trouver des jeunes qui portent un intérêt pour leurs activités. Par contre, je pense qu'un certain nombre d'entreprises n'ont peut-être pas franchi le pas, tout simplement parce qu'ils ont un manque de vision sur le long terme. Et vous savez, quand ils s'engagent sur la formation et qu'ils contractualisent avec un jeune au travers d'un contrat d'apprentissage, ils n'ont pas envie de l'emmener dans le mur, et ils ont envie qu'il réussisse et d'avoir cette possibilité de continuité sur l'ensemble du parcours
projeter,
de formation. Donc voilà, se projeter. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a demandé notamment un aménagement du contrat d'apprentissage et de possibilité de transfert du contrat d'une entreprise à une autre sans qu'il y ait rupture, pour confirmer l'engagement des entreprises auprès des jeunes.
Alors, on va se quitter un court instant. Joël Fournier, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. On se retrouve dans un instant, cette fois-ci avec un chocolatier de renom que vous connaissez très bien, situé en Loire-Atlantique, très très impliqué dans la formation des jeunes. À tout de suite.
Sud Radio CSA La France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat avec Joël Fournier, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui a lancé avec ses équipes vendredi dernier la campagne « Ici, je forme un apprenti », une campagne nationale pour valoriser l'apprentissage au sein des entreprises. On l'affiche fièrement sur sa vitrine avec un macaron, on le fait savoir. Allez, tout de suite, direction la Loire-Atlantique, chez Vincent Gallet, chocolatier de renom, qui prône lui aussi haut et fort toutes ses valeurs de l'apprentissage.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Vincent Gallet.
Bonjour.
Nous sommes en studio avec Joël Fournier, que vous connaissez très bien, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, vous avez lancé ensemble vendredi dernier, donc c'est cette campagne « Ici, je forme un apprenti ». Alors, vous êtes chocolatier, vous exportez votre savoir-faire, notamment en Asie. Depuis 2018, vous êtes le président de l'association internationale Relais Desserts, qui regroupe les meilleurs pâtissiers français, afin justement d'aller faire rayonner aux quatre coins de la planète. Alors, si je reviens rapidement sur votre parcours professionnel, vous êtes tombé dans la marmite du sucré assez tôt. Et à 14 ans, vous avez réalisé vos premiers stages en pâtisserie. Et finalement, c'est grâce à l'apprentissage que vous avez pu, on va dire, confirmer ou infirmer une passion. Et vous, en l'occurrence, confirmer.
Oui, c'est ça, en fait. Voilà, je suis un pur produit de l'apprentissage. J'ai commencé, comme vous le disiez, avec mes premiers stages vers 14 ans. Et puis, je suis rentré en apprentissage à 16 ans, après mon cursus traditionnel après 3e. Et puis, voilà, et aujourd'hui, et vous voyez, je suis installé depuis 24 ans.
Et donc, vous voyez, c'est pour ça que vous comprenez à quel point l'apprentissage est important. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de former des apprentis pour aussi parfaire son savoir-faire. On l'évoquait avec Joël Fournier, la possibilité aussi de continuer son apprentissage d'une entreprise à l'autre, là aussi, pour pouvoir justement avoir le CV et l'expérience la plus complète possible.
Oui, c'est ça. En fait, l'importance de l'apprentissage pour nos métiers, c'est vraiment quelque chose de primordial, puisqu'on forme, bien sûr, nos futurs employés et après nos futurs repreneurs. Si on veut que le métier perdure et que nos entreprises perdurent, là, pour nous, c'est uniquement l'apprentissage.
Ouais. Alors, vous êtes un homme très occupé, hein, vous ne comptez pas vos heures de travail comme beaucoup d'artisans. Comment vous vous organisez justement pour pouvoir justement avoir des apprentis et en quoi les apprentis sont vraiment importants dans la composition de votre équipe?
Eh bien, écoutez, si vous voulez, donc bien sûr, je ne suis pas tout seul. Nous, aujourd'hui, on est 90 salariés entre la production et la vente. Dans nos équipes, dans chaque poste, j'ai un binôme ou un trinôme, voire des équipes plus grosses, avec des responsables de poste, des gens en ouvriers, et puis des apprentis. Et cette façon, en fait, pour les gens aussi qui travaillent chez nous, de pouvoir faire transmettre son savoir à un jeune, c'est aussi quelque chose d'important pour eux. Et c'est à nous de vraiment leur inculquer ça, parce que faire son produit, c'est très bien, mais apprendre à quelqu'un, eh bien, c'est encore mieux, parce qu'on va pouvoir augmenter la cadence, pouvoir faire des choses différentes. Et puis, ça donne aussi, personnellement, un intérêt au métier, parce que de faire son métier, c'est bien, mais de le montrer à quelqu'un d'autre, c'est mieux. Et c'est vrai que pour ça, l'apprentissage est vraiment un des points fondamentaux.
Joël Fournier, vous êtes d'accord avec ça, l'importance d'avoir des équipes multigénérationnelles?
Oui, je suis d'accord, parce que c'est comme ça aussi qu'on transmet les vrais savoir-faire. Et je pense que c'est extrêmement riche pour un jeune quand il a la possibilité d'être confronté et d'être en contact direct avec différentes générations. Et ça, c'est important. Et je pense que Vincent a raison. C'est aussi en créant, j'irais, vraiment une équipe autour d'un jeune qu'on va parfaire à la réussite de cette formation et de lui assurer cette connaissance précise du métier et de lui faire découvrir les gestes et les vraies valeurs de l'artisanat.
Alors justement, voilà. Allez-y, pardon.
Pardon, excusez-moi. Oui, et puis je voulais, voilà, revenir là-dessus aussi, c'est qu'à une époque peut-être un peu lointaine, on disait oui, en apprentissage, c'est pas valorisant ou les jeunes sont pas valorisés. Aujourd'hui, notamment chez nous, pour moi, plus l'apprenti va être formé et plus il va être bien formé et formé tôt, plus c'est intéressant pour lui et c'est intéressant pour l'entreprise. Donc c'est vraiment une réelle formation, ils sont dans le concret, les jeunes sont en immersion dans la vie de l'entreprise et pour ça, c'est vraiment très très formateur.
Mais vous n'avez pas le sentiment justement, Vincent Gallet, que ça a changé au niveau de l'image qu'ont les gens de l'apprentissage? Il y a beaucoup de reconversions professionnelles, il y a un retour vers ces métiers de l'artisanat. Est-ce que vous sentez quand même un changement de mentalité à ce niveau-là?
Bien sûr, la vision de l'apprentissage a changé. Alors, de par plein de choses, hein, parce que aussi notre métier, la vision de nos métiers a changé. Aujourd'hui, être pâtissier, c'est devenu un peu plus tendance qu'à une certaine époque. Donc, c'est vrai que ça attire aussi beaucoup plus de jeunes et la voie de l'apprentissage reste aujourd'hui le meilleur moyen. Moi, j'ai à peu près formé 150 apprentis en 25 ans. Vous voyez, aujourd'hui, j'en ai à peu près 6 ou 7 au laboratoire qui sont ouvriers chez nous et qui ont commencé par l'apprentissage.
D'ailleurs, ce sont des candidatures spontanées ou bien vous travaillez, on va dire, en partenariat avec des CFA ou des écoles ou comment ça se passe?
Alors, bon, on a les deux. Donc, on a relativement beaucoup de CV, hein, en général, de plus en plus. Hein, des gens qui nous demandent pour la formation. Et après, bien sûr, on est en étroite relation avec les chambres de métiers parce que la formation est... est dédié dans ces chambres de métiers. Et donc, c'est un travail d'équipe, hein, parce qu'ils font des choses la semaine de cours où ils peuvent s'arrêter un peu plus longtemps sur certaines choses et certaines problématiques qu'ils ne peuvent pas spécialement faire en entreprise. Et puis, le mélange des deux fait que, ils voient les choses un peu plus concrètes et puis ils voient toutes les bases du métier en chambre de métiers.
Est-ce qu'on peut dire, Joël Fournier, que le secret justement de la réussite, un bon partenariat entre un apprenti justement et son entreprise qui l'accueille, c'est avant tout la motivation de l'apprenti. C'est pendant longtemps on considérait que l'artisanat c'était une voie de garage, donc on y mettait parfois les élèves qui ne trouvaient pas leur voie dans le système classique, alors qu'il faudra avant tout surtout viser sur les passions, les motivations premières, essayer vraiment d'avoir des apprentis qui viennent avec plaisir découvrir
alors,
ces métiers.
De plus en plus, je pense que Vincent doit le constater dans son entreprise, on a de plus en plus de jeunes qui font ce vrai choix vers les métiers de l'artisanat. et notamment, j'irai au travers de la loi Choisir son avenir professionnel, quand on a permis de pouvoir mettre, j'irai en place directement une orientation ciblée sur un CFA, sur un métier en particulier du secteur de l'artisanat, c'est extrêmement important parce que c'est valorisant pour un jeune.
Bien sûr.
C'est pas une voie de garage, c'est vraiment un choix personnel, individuel. Et vous avez des gens qui ont des parcours, j'irai scolaires d'une très grande valeur et qui font malgré tout le choix d'un métier et notamment d'être pâtissier ou chocolatier. C'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont une passion, c'est parce qu'ils ont une envie vers ce métier. Et je pense qu'il faut mettre en valeur ces jeunes. Ils ont le droit de choisir une profession telle que celle-ci. Et du coup, on doit aussi, et au travers de l'action Ici, je forme un apprenti, c'est à la fois mettre en valeur l'entreprise qui forme le jeune, mais c'est aussi mettre le jeune en valeur qui sort de cette entreprise dans laquelle il a été formé. Et c'est bien, vous parlez de binôme, mais j'irai c'est même trois entités qui doivent travailler en étroite collaboration. C'est à la fois le jeune avec son employeur et avec avec l'artisan, mais c'est aussi les deux ensemble avec le centre de formation qu'on doit travailler en cohérence. Et Vincent le sait, le centre de formation de l'URMA de Loire-Atlantique et du CIFAM en particulier travaille dans ce sens, c'est-à-dire de mettre le plus possible en relation nos formateurs avec les professionnels en contact direct pour qu'on soit aussi capable d'adapter les formations en fonction du besoin réel des entreprises. Les choses évoluent, il faut qu'on s'adapte.
Bien sûr.
Et les jeunes veulent être, dans les entreprises de pointe. Et Vincent est vraiment un bon exemple. On sait, il a toute sa notoriété sur le territoire nantais.
Vincent Guerlet, pensez-vous que justement l'effet Covid va avoir plutôt un impact positif, bénéfique sur l'alternance, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et ça va peut-être donner davantage envie à des jeunes de se lancer vers des métiers qui ont du sens, des métiers concrets?
Oui, je pense que c'était déjà une dynamique qui était lancée, mais comme sur beaucoup de choses, l'effet Covid en fait accélère cette dynamique.
Merci beaucoup Vincent Guerlet pour votre témoignage. Merci.
Avec plaisir.
Et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci, vous de même, au revoir.
Au revoir. Dernière question, Joël Fourny. Si un jeune homme qui nous écoute est intéressé par l'apprentissage, qui doit-il contacter? Comment faire?
Il doit contacter les chambres de métier. Il peut aller directement voir une chambre de métier, faire appel à un conseiller à l'intérieur de cette chambre, même voir à aller à la rencontre d'un centre de formation. Et surtout, pas hésiter quand il verra un macaron, ici je forme un apprenti, d'aller frapper à la porte en disant comment vous pouvez m'orienter vers les métiers de l'artisanat et vers la formation par apprentissage.
Eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès avec cette très jolie campagne. Ici, je forme un apprenti. Je l'affiche fièrement avec mon macaron. C'est important, effectivement, la transmission de savoir-faire. Merci, Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Merci pour cette interview.
Merci.
Bon dimanche.
Bon dimanche à vous.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Et il est temps de retrouver notre French Trotter, Thibault. Bonjour, Thibault.
Bonjour, Nathalie.
Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine?
Eh bien, j'ai visité la plus grande ferme urbaine d'Europe, qui s'étend sur 14 000 mètres carrés de rooftop.
Ben dis donc.
Eh ouais, pas mal. Et figurez-vous qu'elle est en France, à Paris, sur le toit du parc des expositions dans la porte de Versailles.
Mais c'est vraiment tendance, hein, en ce moment, c'est dans l'air du temps, hein, ces fermes urbaines. Est-ce qu'on peut en rappeler le principe?
Oui, ben, comme leur nom l'indique, il s'agit de fermes qui pratiquent l'agriculture au cœur des villes, avec des techniques adaptées, on va y revenir. En fait, elles n'ont pas vocation à remplacer l'agriculture traditionnelle, mais plutôt à proposer une offre complémentaire avec des produits de qualité, bien sûr, et surtout en circuit court, des produits qui n'ont pas fait 1500 km avant d'arriver dans votre assiette. Je vous propose d'écouter la présentation de Sophie Hardy, la directrice de Nature Urbaine. C'est le nom de cette ferme, pas comme les autres.
Alors effectivement, c'est un lieu qui est complètement atypique puisqu'on est à la fois en plein cœur de la ville et en même temps dans un espace très protégé. Le toit du hall 6 de la porte de Versailles fait 14 000 m² et on occupe sur la partie maraîchère un tiers de la surface cette année. Et puis on a des activités complémentaires qui sont par exemple l'événementiel. On a une serre qui est destinée à la location pour les entreprises. On a aussi des petites parcelles potagères qui sont mises à la location pour les Parisiens. On en a 137 qui ont été prises d'assaut durant l'été. Et puis on organise des visites de la ferme fermes urbaines également très régulièrement. Et alors là, ce qui est sympa, quand on arrive au fond des carrés parisiens et qu'on se retourne, on a une belle vue sur la tour Eiffel. Voilà.
Potager en bas, donc la tour Eiffel en arrière-plan.
Là, on est sur la partie visite, en fin de compte, c'est... On a reconstruit à l'identique nos deux techniques de production sur la partie maraîchère qui sont l'aéroponie. Donc là, par exemple, on a des colonnes de culture. Ces colonnes, elles contiennent 52 alvéoles. Et chaque alvéole, vous voyez, a un plan. Là, ce sont des fraises. Les racines sont totalement à nu. Il n'y a pas du tout de terre. Et ce qui nourrit la plante, c'est un arrosage régulier qui mélange l'eau et des nutriments qui finalement remplacent la terre. Donc on a donc ces fraises qui poussent de façon verticale.
Voilà, on peut décrire pour les auditeurs, en fait on a une sorte de colonne avec des alvéoles.
Et les deux principaux avantages de cette technique verticale, c'est qu'elle prend moins de place au sol effectivement. De plus, elle est très légère, c'est ce qui nous a permis d'être sur le toit. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on est sur un circuit fermé pour l'alimentation en eau, ce qui fait qu'on économise 90% de l'eau habituellement utilisée.
Mais oui, et puis c'est logique, hein, finalement, une technique verticale de culture pour économiser la place au sol.
Oui, c'est ça, et comme vous l'a expliqué Sophie, l'irrigation en circuit fermé, elle permet de faire des économies substantielles d'eau. Il s'agit donc de l'aéroponie. Mais Nature Urbaine utilise une seconde technique qui permet de faire pousser de magnifiques tomates dans ce jardin qui donne sur la tour Eiffel. Écoutez.
Si vous voulez, je vous présente la deuxième technique de production qu'on a sur la toiture de Nature Urbaine. C'est la technique de l'hydroponie. Le principe de l'hydroponie, c'est qu'on met des plants dans un substrat neutre. Là, en l'occurrence, c'est de la fibre de coco. Et les plantes sont arrosées par les tuyaux que vous avez ici, qui à nouveau les arrosent par un mélange d'eau et de substrat. Et voyez là, en hydroponie, on met des plants qui montent. Là, on voit les plants de tomates. On a aussi de la courgette, on a aussi de l'aubergine. Voilà, c'est tout ce qui est grimpant, en fait, qu'on va mettre sur ce qu'on appelle les gouttières.
Toutes ces productions, ces fruits, ces légumes, ces fleurs sont utilisés à quelle fin?
Alors, tout ça est vendu en circuit ultra court, puisqu'on vend au perchoir, qui se trouve sur la toiture.
C'est le restaurant
sur le toit.
Sur le toit.
On vend également à l'Intermarché, qui se trouve à moins de 800 mètres de la toiture.
D'accord.
Et puis, on a passé un accord avec une société qui fait de la restauration collective d'entreprise, qui travaille avec des producteurs en direct, qui s'appelle Serenest. Donc, aujourd'hui, ce qu'on produit, on le vend. Et on produit en ce moment quasiment une tonne par semaine.
Une tonne de légumes par semaine.
Ouais,
c'est impressionnant.
Hein.
Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce toit du parc des expositions, mais là on n'a vraiment plus le temps. Thibault, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la visite, ça vous va?
Rendez-vous est pris la semaine prochaine.
Merci beaucoup, merci à vous chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout même radio. Et d'ici là, portez-vous bien.